Un événement, une idée de sortie, un invité, la quotidienne, c'est l'invité du jour sur Altitude FM 93.5.
Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Saint-Éric, je fais partie de l'UNADEV, Union Nationale des Déficients Visuels, c'est une association pour déficients visuels. Donc on fait un atelier tous les lundis et dans le cadre de cet atelier, je vais vous parler de mon île qui est la Réunion. L'île de la Réunion est située dans l'océan Indien, ça fait partie des départements d'outre-mer, c'est un département français, depuis 1946. Elle est longtemps restée déserte. Elle a été découverte au XVIe siècle par des navigateurs de passage. C'était une escale sur la route des Indes. D'abord, il y a eu des Portugais qui l'ont découverte, puis des Arabes. Les Français, un petit peu plus tard, au milieu du XVIIe siècle. Les premiers colons sont arrivés en juillet 1665. Ils se sont installés dans la baie de Saint-Paul, à l'ouest de l'île, accompagnés de Malgaches, qu'ils ont ramené durant leur traversée depuis la France. Principalement des Malgaches, il y avait aussi des Africains, Malgaches du Mozambique aussi. Donc ces Malgaches étaient des esclaves. Ils ont été ramenés sur l'île pour cultiver du café, des épices. Et l'île de la Réunion, à cette époque, c'était une grande puissance commerciale. Donc grâce à cette main-d'œuvre gratuite, on y cultivait surtout le café jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Mais comme le café restait quand même une culture assez fragile par rapport aux nombreux cyclones qui venaient sur l'île, il a été décidé en 1799 de passer à la culture de la canne à sucre. Les esclaves n'avaient pas beaucoup de droits. Si des lois régissaient leur statut, tout était fait, en revanche, pour leur enlever toute leur dignité, toute révolte qu'ils pourraient avoir contre leur maître. Si certains maîtres avaient un peu d'humanité, d'autres, en revanche, se livraient à des sévices inimaginables. L'esclavage a été aboli en 1848, le 20 décembre 1848, qui est devenu une fête à La Réunion, c'est devenu un jour férié. Après l'abolition de l'esclavage, comme les maîtres avaient perdu de la main-d'œuvre, ils ont fait venir ce qu'on appelait des engagés d'Inde et de Chine. Les engagés, enfin administrativement, ils n'étaient pas des esclaves, mais ils étaient traités comme des esclaves. Et donc tout ce métissage, les Africains, les Malgaches, les Chinois, les Indiens, les Français et puis d'autres colons aussi venus de d'autres pays d'Europe ont fait le métissage de l'île. L'île est devenue département français en 1946 et de là tout le monde a retrouvé sa liberté et tout le monde a appris à vivre ensemble. J'ai partagé avec vous des nombreuses recherches que j'ai fait depuis 6 ans maintenant. Pour m'aider à faire ces recherches, j'ai été sur plusieurs sites sur Internet, tels que Généanet, Eredis, plusieurs sites. Et puis aussi, j'ai consulté les archives. Bien sûr, avec des personnes qui m'ont aidé, comme je suis déficient visuel. J'ai été aux archives d'outre-mer, suite à ma petite histoire sur mon île. Je vous propose de retrouver une personne des archives, Isabelle Hidion, que j'ai eu le plaisir d'interviewer. Isabelle, bonjour.
Bonjour.
Donc, tout d'abord, en quoi consistent les archives nationales d'outre-mer ?
Donc, les archives nationales d'outre-mer ont été créées en 1966 à Aix-en-Provence. Donc, c'est important de préciser que c'est à Aix-en-Provence. Elles ont été créées à l'origine pour accueillir une partie des archives qui avaient été produites dans les anciens territoires français, donc dans les anciennes colonies et l'Algérie. Oui. Et une partie de ces archives a été transférée à Aix et installée à Aix en 1966. Après, les ANOM conservent aussi les archives des ministères qui ont eu en charge les anciennes colonies et plus particulièrement les archives du ministère des colonies.
Comment est-ce qu'on peut consulter ces archives?
Alors, écoutez, c'est très simple. Il y a plusieurs façons. Donc, venir sur place, bien sûr, à Aix-en-Provence.
Oui.
Donc, il suffit de se présenter avec une simple carte d'identité. Donc, chacun a accès gratuitement aux ANOM. Donc, on est ouvert tous les jours, quand tout va bien. Donc, si vous n'avez pas de sujet précis, des références à consulter, une personne vous renseignera, vous guidera dans les instruments de recherche. Après, nous avons aussi un site internet qui vous donne aussi des renseignements sur ce que l'on a, où vous avez beaucoup d'instruments de recherche qui sont en ligne. Donc les instruments de recherche ou inventaires vous expliquent ce qu'il y a à l'intérieur d'un carton, par exemple, et qui va vous donner la référence que vous pourrez consulter en salle de lecture. Mais vous avez aussi en ligne sur notre site des archives qui ont été numérisées, qui peuvent être accessibles comme ça.
On parle ici d'archives. Mais justement, en quoi ça consiste les archives? Quel genre de documents peut-on consulter?
Oh, ben c'est très varié. Alors quand on dit archives, on parle de, enfin nous, hein, puisque notre document le plus ancien date de 1630-1640, donc c'est du papier. Hein. Donc les archives en général, c'est contenu dans des cartons. Et quand vous consultez des archives, on vous amène des cartons. Vous découvrez à l'intérieur ce qu'il y a. Mais ben, les archives, ça peut être aussi sous forme de registre. Hein.
Ouais.
Mais ça peut être aussi des cartes et plans, puisque outre donc des fonds d'archives, on a une cartothèque d'environ 60 000 cartes et plans qui sont consacrées bien sûr à l'outre-mer. Et on a aussi une iconothèque, donc vous pouvez aussi consulter des photos ou des gravures ou des affiches.
D'accord. Donc du coup, des archives d'outre-mer, vous avez parlé de l'Algérie et tout ça, mais vous avez les outre-mer sur, par exemple, la Réunion, la Martinique et tout ça?
Oui, bien sûr. Alors, quand on dit archives d'outre-mer, c'est vrai que le terme peut être trompeur, puisqu'il s'agit des anciennes colonies françaises et de l'Algérie.
Oui.
Donc, alors, qui dit ancienne colonie, c'est le premier empire colonial avec ce qu'on appelait les vieilles colonies, dont la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe.
Oui.
Après, vous avez le deuxième empire colonial au XIXe siècle, donc c'est ce qui a trait à l'Afrique, à l'Asie, Madagascar, etc.
D'accord.
Et alors, s'agissant de ce qui est maintenant des départements, collectivités territoriales, nous on conserve des documents jusqu'à justement la départementalisation dans les années 946-1947.
D'accord. Voilà. Donc, par exemple.
Après, il faut s'adresser ou aux archives départementales sur place, aux archives nationales à Paris.
En tant que directrice des archives, comment vous voyez votre métier? Comment vous le ressentez?
Bah écoutez, c'est un métier qui est très varié. Bon, de par la définition des archives, donc il y a à la fois tout ce qui est l'aspect conservation, que ces archives soient bien conservées et se transmettent aux autres générations.
Oui.
Il y a aussi la notion de communication, puisque
oui.
Ces archives sont conservées aussi pour être communiquées aux chercheurs,
oui.
En salle de lecture. Et il y a aussi la notion de valorisation. Donc,
oui.
Qui est de nous faire connaître, de mettre en valeur ces documents, soit par des publications, soit par des expositions, et de pouvoir travailler avec des laboratoires de recherche, des associations. Donc, c'est un métier qui est très enrichissant au quotidien.
Ouais, très passionnant aussi. Je pense que c'est une passion.
Très passionnant, oui.
Voilà, c'est une passion hein, de travailler dans ce genre de métier, oui, c'est... C'est vraiment, oui, la valorisation, la transmission aussi. Vous pouvez peut-être nous donner le site internet sur lequel on peut consulter.
Oui, alors, le plus simple, c'est de taper dans un moteur de recherche Archives nationales d'outre-mer et vous arriverez sur notre site, sans difficulté.
Eh bien, je vous remercie.
Merci à vous. Au revoir,
merci.
Bonne journée.
Au revoir.
Au revoir.
C'était l'invité du jour sur Altitude FM.